Le balado du groupe 42, GED 862, rapport de fin d'études, Université de Sherbrooke.
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Lambert. Je suis coordonnateur au service éducatif et au bureau de développement stratégique du Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Dans mon rôle, j'accompagne notamment le déploiement pédagogique des technologies. C'est dans ce contexte professionnel que la question de l'intégration de l'intelligence artificielle générative s'est imposée. En effet, lorsque c'est arrivé, il y a eu beaucoup d'intérêt, bien sûr, mais aussi des résistances, plusieurs questions et une véritable pression pour agir rapidement. C'était déjà un enjeu de gouvernance, de formation et d'encadrement. Pour vous parler de cette démarche, je suis avec Véronique Gilbert.
Bonjour Jean-Claude.
Et Jonathan Baudouin.
Bonjour à tous.
Deux conseillers pédagogiques du récit. Très vite, une question s'est imposée. Comment accompagner les écoles pour que l'IAG soit utilisé de façon responsable, mais surtout de façon pertinente, avec une véritable intention pédagogique et une valeur ajoutée? C'est cette question qui a servi de point de départ à l'outil de gestion que j'ai développé dans le cadre de ma maîtrise exécutive à l'Université de Sherbrooke. Le besoin était clair. Il fallait structurer, encadrer, former et diffuser efficacement. Dans notre organisation, parmi les répondants à l'expression des besoins de perfectionnement, plus de 61% du personnel enseignant souhaitait être formé à l'IAG. En parallèle, les orientations du ministère de la cybersécurité et du numérique, ainsi que celles du ministère de l'Éducation, insistaient sur une utilisation éthique, légale et responsable de l'IA. Comment traduire ces orientations en actions concrètes dans les écoles? Le défi est double. Former, oui, mais aussi encadrer les usages dans une organisation qui compte 59 établissements avec des réalités d'utilisation différentes d'une école à l'autre. Jusqu'ici, la formation reposait surtout sur des journées pédagogiques offertes de façon centralisée. Le transfert dans les écoles, lui, restait plus ou moins structuré.
En effet, d'une école à l'autre, la diffusion de l'information variait, alors que les besoins, eux, étaient bien présents.
Autrement dit, comment passer d'une formation centralisée à un accompagnement de proximité? C'est là que j'ai commencé à structurer un outil de gestion. Une véritable démarche organisationnelle réaliste, pensée pour faire circuler l'information, soutenir les écoles et appuyer les décisions par des données. Dans une logique de recherche orientée par la conception, je voulais construire une réponse utile, adaptable et crédible pour le milieu. Ainsi, cette démarche s'adresse à trois groupes d'acteurs. Les directions d'établissement qui doivent encadrer les pratiques dans leur école, la direction du service éducatif qui doit garder une cohérence d'ensemble dans le déploiement, et les conseillers pédagogiques du récit qui jouent un rôle important dans l'accompagnement des milieux. L'objectif est clair, donner à ces acteurs un outil pour structurer le déploiement de l'IAG.
Et comme conseiller pédagogique du récit, notre rôle, c'est justement de faire le lien entre la formation, le soutien aux leaders et le transfert dans les écoles.
Concrètement, l'outil repose sur un modèle d'agent multiplicateur qu'on appelle les leaders pédago-numériques. L'idée est simple, on forme des enseignants qui deviennent des relais dans leur école. Voici le fonctionnement. En début d'année, les directions identifient un enseignant pour exercer ce rôle. Par la suite, ces enseignants participent à l'Académie des leaders qui offre diverses formations technologiques.
Alors avec Jonathan, on organise les académies, on prépare les contenus, on planifie les rencontres et surtout, on accompagne les leaders ensuite dans la mise en pratique.
Oui, parce qu'au fond, l'académie, c'est pas seulement un lieu de formation, c'est aussi un espace de soutien, de développement et de partage entre les leaders.
C'est là que le modèle prend tout son sens. On passe de la formation centralisée à un accompagnement de proximité. En fin d'année, un bilan est réalisé à partir d'un sondage mené auprès des leaders et des directions. On y recueille, entre autres, la fréquence de partage, les contenus diffusés, les moyens utilisés, les bénéfices et les difficultés.
Et ce bilan nous oriente dans notre plan d'action ainsi que dans le développement de la compétence numérique de tout le personnel scolaire.
Pour structurer cette démarche, je me suis appuyé sur le Business Motivation Model qui permet d'aligner la vision, les objectifs, les stratégies et les actions. Cette démarche, elle s'inscrit aussi en cohérence avec notre PEVR, notamment dans l'objectif visant le déploiement d'environnements technologiques innovants. Maintenant, ce qui donne vraiment de la valeur à cette démarche, ce sont les résultats. Parce qu'au fond, la question, c'est pas seulement « est-ce qu'on a mis quelque chose en place? » C'est « est-ce que ça fonctionne réellement dans les écoles? » Le premier résultat marquant, 91% des leaders ont partagé les contenus reçus. Pour moi, c'est le signal clé. La formation circule. Elle prend vie. Elle se rend dans les écoles.
Puis ça, on l'a vraiment vu dans le suivi. Les leaders faisaient pas seulement recevoir l'information. Ils la reformulaient, la réinvestissaient, puis la faisaient circuler dans leur milieu.
Oui, et pour nous, c'est quand même un signe fort. Ça montrait que le transfert commençait réellement à se faire dans les écoles.
Le deuxième résultat, près de 87 % des leaders ont partagé des informations concernant l'IAG. C'est pas anodin. Parmi tous les autres sujets présentés, ça veut dire qu'une grande majorité des écoles ont eu accès à des contenus partagés, des repères clairs et une meilleure compréhension des bonnes façons d'utiliser l'IAG. Le troisième résultat, probablement le plus parlant pour le plan organisationnel, avec ma petite équipe ici, le modèle a permis de former 30 leaders qui eux-mêmes ont rejoint plus de 670 enseignants. Quand on s'arrête un instant à ces chiffres, on voit toute la force du modèle. Avec peu de ressources, on a rejoint beaucoup de monde rapidement. C'est exactement ce que Martin Smith associe à l'idée d'efficience.
Et ça montre aussi quelque chose d'important pour nous comme équipe. En soutenant bien les leaders, on augmente réellement la portée du modèle sans alourdir toute la structure centrale.
Le quatrième constat, pour partager l'information, 90 % des leaders ont pris la parole lors de l'Assemblée générale à l'école. Ça montre quelque chose d'important. La diffusion, ça ne passe pas seulement par des documents ou des courriels. Ça passe aussi par des moments collectifs, vivants, ancrés dans la vie de l'école. Enfin, ces résultats ont été analysés dans une logique de la conscience de situation, selon Hensley. D'abord, percevoir ce qui se passe, comprendre pourquoi et décider quoi faire maintenant. Les données ont servi à orienter les décisions, ajuster des moyens de diffusion, mieux soutenir les leaders, consolider le modèle. On est réellement dans une gestion éclairée par les données où on réduit l'intuition au profit d'une logique plus probante.
Et c'est aussi dans ce va-et-vient entre les résultats, les rétroactions et notre accompagnement qu'on améliore concrètement le modèle. C'est un processus en constante évolution et qui demande des ajustements.
Finalement, les résultats, les recommandations sont présentés à nos leaders, aux directions, pour améliorer le modèle et pour valider l'allocation de ressources, notamment le temps et le budget. Je me suis appuyé sur les principes du data storytelling, c'est-à-dire sélectionner les données les plus utiles, les faire ressortir rapidement, les constats importants, les mettre en évidence. Ça permet de rendre les résultats plus faciles à lire, de soutenir une compréhension commune et une communication efficace. Concrètement, qu'est-ce que cette démarche change? Pour les directions d'établissement, ça offre une façon concrète d'encadrer l'IAG sans avoir à porter toute seule. Pour la direction du service éducatif, ça permet de suivre un déploiement cohérent, aligné sur les orientations du PEVR, avec des indicateurs utiles pour ajuster les actions. Et pour nos conseillers pédagogiques du récit, ça crée un espace clair d'échange pour soutenir les leaders, mutualiser les ressources et renforcer le transfert dans les écoles.
En fait, pour nous aussi, ça clarifie beaucoup le rôle d'accompagnement. On sait mieux quoi soutenir, à quel moment, comment aider les leaders à prendre leur place dans leur école.
Et ça nous permet d'être plus cohérents comme équipe. On n'est pas seulement en réaction. On adopte un accompagnement plus structuré et plus proactif.
Autrement dit, mon outil ne vise pas seulement à informer. Il vise à organiser l'action, soutenir la décision et à rendre le déploiement de l'IAG plus durable dans l'organisation. Cela dit, cette démarche a aussi ses limites. Elle dépend beaucoup de la mobilisation des leaders, du temps disponible, des ressources dans chaque milieu. Pour l'instant, les données recueillies portent surtout sur la diffusion. L'impact direct sur les pratiques pédagogiques reste encore à documenter. En conclusion, cette démarche montre qu'il est possible d'intégrer l'intelligence artificielle générative en éducation de façon structurée et responsable, à condition de s'appuyer sur deux leviers essentiels. Un leadership partagé, des données qui éclairent l'action. Ce que je retiens surtout, c'est que les données ne servent pas seulement à constater. Elles révèlent les leviers, soutiennent l'engagement et l'intelligence collective. La suite maintenant, c'est d'aller plus loin, évaluer l'effet de la formation du personnel sur les pratiques pédagogiques et éventuellement sur l'apprentissage des élèves. Au fond, maintenant, la question n'est peut-être plus seulement comment diffuser l'information. La vraie question, c'est plutôt comment faire en sorte que cette diffusion soutienne une transformation réelle, durable et mesurable des pratiques professionnelles.